Les héroïnes, une heure avec des meufs.
Il y a quelque chose qui nous lie, nous vivons toutes les deux la nuit. Nous sommes nés sur les mêmes terres, encore plus à l'ouest que l'enfer. Jamais je ne te l'ai dit, je pense que la mélancolie qui coule dans ton sang et le mien est issue de ce foutu sang.
Les héroïnes, une heure avec des meufs sur Canal B.
Bonjour, c'est Morgane et bienvenue à toutes et à tous dans Les héroïnes sur Canal B. Aujourd'hui, je suis avec ma fidèle et brillante consoeur et complice avec laquelle finalement nous on forme le duo originel des héroïnes. J'ai nommé, vous l'avez entendu, Marine Combes.
Bonjour.
Bonjour Marine, fondatrice et rédactrice en chef du magazine féministe rennais YEG, qu'on le retrouve, qu'on peut lire sur yegmag.fr. Avec Marine, aujourd'hui, nous recevons en deuxième partie d'émission Lucie et Louli. Bonjour Lucie, bonjour Louli.
Bonjour.
Qui sont co-fondatrices du collectif rennais de lutte contre la grossophobie, Gros Amour, avec lesquelles on parlera des événements et des projets à venir, là prochainement, et aussi des discriminations, voire pire, subies par les gros et les grosses dans nos sociétés. Mais avant cela, c'est l'heure de la revue d'actu des héroïnes, et c'est moi qui commence, et je commence avec le sixième état des lieux du Haut Conseil à l'égalité sur le sexisme en France. C'est pas hyper réjouissant. C'est même alarmant, en fait, puisque les idées masculinistes progressent, notamment chez les plus jeunes. Alors, Sylvie Pierre-Brossolette, présidente du HCE, au Conseil à l'égalité, plutôt brillante, hein, elle est plutôt reconnue, Sylvie Pierre-Brossolette, pour son travail. Elle a déclaré, donc au moment de la sortie de ce rapport, qu'ils avaient mis la lumière sur trois racines du sexisme, qui commencent à la maison, qui continuent à l'école et qui explosent dans le numérique, sur les réseaux sociaux, notamment à la maison, parce que les parents ne se rendent même pas compte qu'ils éduquent leurs enfants différemment, qu'ils soient filles ou garçons, puis à l'école, puisque l'école reproduit les biais sexistes à tel point que les filles n'ont même pas l'idée de faire une carrière scientifique ou technique, et enfin sur internet, là c'est décuplé. Alors je sais bien que c'est pas toujours très radiophonique les chiffres, mais il y a des chiffres qui sont issus du baromètre sexisme réalisé par Via Voice Paris pour le HCE. Ils sont tellement effarants que j'en ai sélectionné quelques-uns. Je peux pas faire autrement que de vous les citer, en fait. Accrochez-vous bien quand même. Un homme sur quatre, entre 25 et 34 ans, pense qu'il faut être violent pour se faire respecter. Wow. Ça va pas ou quoi, là ? Un homme sur quatre, hein, et chez les plus jeunes. 59% des hommes entre 24 et 35 ans sont persuadés qu'il n'est plus possible de séduire une femme sans être vu comme un sexiste. Ils considèrent même qu'il est aujourd'hui plus difficile d'être un homme que d'être une femme. Ben voyons.
C'est osé.
C'est osé, hein. Alors ça, moi, je crois que c'est les ouin-ouin. Ouin-ouin, on peut plus rien dire, on peut plus rien faire, on souffre trop. 37% des hommes considèrent que le féminisme menace leur place et leur rôle dans la société. Alors ça, c'est ouin-ouin bis.
Mais ça, c'est vrai. Bah, pour le coup, oui.
Oui, non mais menace, non. C'est le rééquilibrage va
oui,
aussi leur servir.
C'est une perte de privilège pour eux, ça, clairement. Et ouais. Une perte de repère. Mais
une perte de privilège, ok,
pas
pour tous. Oui. Tu vois, ceux qui souffrent aussi du masculinisme, du machisme, ils vont trouver leur place. Que voilà, alors alors là aussi, 64% des hommes de 24 à 35 ans déclarent que la pornographie donne envie de reproduire les gestes sexuels et qu'il ne faut pas la diaboliser. Voilà, ils ont tout compris. 9 femmes sur 10 ont déjà renoncé à des actions ou modifié leur comportement pour ne pas être victimes de sexisme. Alors on imagine, hein, c'est ne pas se maquiller comme on veut, ne pas s'habiller comme on veut, ne pas aller dans un endroit parce qu'on a peur. 60% des femmes pensent qu'elles doivent être discrètes prête pour correspondre à ce qu'on attend d'elle dans la société. Ben, je vous cache pas que moi, c'est complètement raté. Voilà. Rien que avec Mourir de sorcière, c'est foutu. Alors, le Haut Conseil à l'égalité, sa présidente Sylvie Pierre-Brossolette en tête, dénonce l'engouement des jeunes garçons et des jeunes hommes pour les idées masculinistes, celles qui affirment que les femmes sont inférieures, qu'elles devraient rester dans leur cuisine, qu'il faut être un bonhomme qui sait se montrer fort et violent quand nécessaire. C'est une idéologie réac, hein, pour pas dire ringarde, misogyne, phallocrate, anti-féministe et androcentrée. Les adeptes de cette idéologie sont persuadés que tous leurs maux, leurs échecs, leurs déconvenus ne sont pas de leur fait. Non, non, ils sont jamais responsables, c'est jamais de leur faute, mais c'est de la faute des femmes. Ça, c'est tellement simpliste et rétrograde que vraiment, c'est pénible à entendre. Et puis pour eux, c'est tellement plus confortable de ne jamais se remettre en cause et de ne jamais remettre un système dans lequel on est privilégié en cause. On le disait à l'instant. Alors, vous voulez un exemple récent de masculinisme ? Eh bien, ce sont ces trois députés, donc élus de la République, Rassemblement National, élus de l'Aude, Christophe Barthe, Julien Rancoul et Frédéric Falcon, ou Falcon, je ne sais pas.
Falcon, ça sonne bien.
Bon, ben voilà, vous l'avez soulevé. Je pensais être plus subtil, mais non, non. J'y allais avec mes gros sabots. Donc, ces trois hommes, ces trois députés RN, qui posent fièrement devant une pancarte où il est écrit « Va faire la soupe, salope », lors d'un barrage organisé par les agriculteurs à Narbonne, là, il y a quelques jours. Une pancarte misogyne adressée aux élus écolos Marine Tondelier et Sandrine Rousseau, « Va faire la soupe, salope ». En fait, c'est l'insulte proférée en juin dernier par un vigneron contre les deux élus écolos. Alors, les trois hommes, là, les trois élus d'extrême droite suscités, connaissent l'histoire et ils ont sciemment posé pour la photo devant la pancarte, écharpe tricolore barrant leur torse bombé de mascu. Et puis, ils se sont empressés de diffuser tout ça sur les réseaux sociaux. C'est un bel exemple de sexisme et de misogynie ordinaire et quotidien. Alors, pour lutter contre ce regain de sexisme et de masculinisme en France, le Haut Conseil à l'égalité préconise une meilleure éducation avec des profs référents et un manuel dédié. Ok, j'ai envie de dire que c'est toujours même qu'on demande de faire le taf. De renforcer la condamnation du délit de sexisme en formant notamment des professionnels de la justice. Dupond-Moretti, si tu nous entends. C'est embêtant parce que ça veut dire que c'est des gens qui vont s'occuper de son fils qui tape sur sa femme. Ça. Mais bon, Dupond-Moretti, on t'attend. Donc voilà, il faut former des professionnels de justice. Il faut simplifier le délit en modifiant la législation sur modifier la législation sur le viol et la prise en charge des victimes. Alors la législation sur le viol, c'est assez restrictif en France et malheureusement, on est mal barré parce qu'Emmanuel Macron fait 2 ans qu'il s'oppose au niveau européen à une définition claire du viol. Donc je suis pas sûre que ça soit demain la veille. Autre préconisation du HCE, c'est réguler les contenus numériques et que les plateformes et autres réseaux sociaux agissent et vite. Enfin, il faut savoir que les sondés, le sondage a été réalisé en novembre. Je vous mettrai tous les liens pour aller voir toutes les infos là-dessus sur ce 6e rapport sur le blog des héroïnes sur le site de Canal B. Donc, les personnes qui ont été sondées, elles n'ont jamais suivi une seule séance d'éducation à la vie sexuelle et à la vie affective. Donc là, il faut absolument faire appliquer cette loi qui date de 2001, dont on parle régulièrement ici dans les héroïnes, qui veut que chaque élève, au cours de sa scolarité, ait 36 séances d'éducation à la vie sexuelle et à la vie affective. Et puis, si ça vous intéresse, je vous mettrai aussi le lien. Je vous conseille le podcast « Être un bonhomme » réalisé par Romain de Becdelièvre sur LSD, la série documentaire de France Culture. Voilà, c'est 4 épisodes d'une heure. Et on nous prévient avant que ça commence que certains propos pourront nous heurter. Donc, c'est vous dire. Voilà. Alors, Alors, quand ce ne sont pas les mascus, bah, ce sont les vieux hommes blancs et leur sexisme patriarcal qui menacent les corps des femmes. Ainsi, jeudi dernier, le 25 janvier, le projet de loi de constitutionnalisation de l'IVG était examiné au Parlement. L'Assemblée nationale s'est engagée vers l'inscription de la liberté garantie à recourir à l'IVG dans la Constitution. Les termes sont importants, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais deux jours avant, Gérard Larcher, 74 ans, président du Sénat, homme blanc et bourgeois, privilégié de droite, a déclaré qu'en France, l'IVG n'était pas menacée et que sa constitutionnalisation ne servait donc à rien et qu'il s'y opposait. Donc, même si l'Assemblée nationale a largement adopté l'inscription dans la Constitution de la liberté garantie d'avorter, pas sûr que le Sénat en fasse autant. Sauf que, contrairement à ce qu'affirme Gérard Larcher, le Conseil d'État et la Commission des lois reconnaissent, eux, le caractère réversible et limité de la protection actuelle conférée par la loi au droit à l'IVG en France. Par ailleurs, tous les jours, des mouvements anti-choix, anti-IVG, qui sont finalement, mine de rien, de puissants lobbies, menacent ce droit par des attaques de centres IVG, par la mise en place de sites et de plateformes téléphoniques pro-life qui incitent les filles et les femmes à poursuivre leur grossesse, etc. D'ailleurs, dimanche 21 janvier, il y avait une manif anti-IVG dans les rues de Paris. Et puis, les exemples récents de la Pologne, de la Hongrie, de l'Italie, des États-Unis suffisent à penser que ce droit à l'IVG pourrait demain être très sérieusement menacé, voire interdit en France. Sais-tu, Gérard, qu'aux États-Unis, depuis l'interdiction de l'IVG, il y a un an et demi, 65 000 Américaines sont tombées enceintes d'un viol sans pouvoir avorter. Et qu'en France, le nombre d'établissements de santé prenant en charge l'IVG diminue sans cesse. C'est moins 20% entre 2005 et 2018. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de la Santé. Et comme le demande le collectif féministe Nous Toutes, au-delà de la constitutionnalisation de l'IVG, il faut aussi rouvrir ces fameux 130 centres IVG fermés ces 15 dernières années, augmenter le nombre de consultations, supprimer la double clause de conscience des médecins, permettre en pratique aux sages-femmes et centres de santé sexuelle de pratiquer des IVG, y compris instrumentales, de fixer une tarification de l'acte facilitant l'accès aux soins, d'engager des poursuites pour délit d'entrave contre les mouvements anti-choix, puisqu'ils sont hors la loi et que ça c'est rarement fait. Alors Gérard, oui, je continue de m'adresser à toi, Gérard. Gérard, toi qui ne sais pas ce que peuvent être des douleurs de règles, toi qui ne connais pas le prix des protections hygiéniques, toi qui n'as jamais subi la charge contraceptive, la peur d'un oubli de pilule, toi qui ne connais pas le poids de la société sur ton utérus, et il est très lourd sur les corps de toutes les femmes, qu'elles aient un utérus ou pas. Toi qui n'es pas non plus sur le terrain avec les associations et les médecins, tu ne sais pas, Gérard. Quand on ne sait pas, on se tait. Tu fais partie de la menace, Gérard. En fait, tu es la menace. Tu menaces par tes propos et tes idées le droit à l'IVG. Tant que des hommes comme toi continueront de se croire légitimes à donner leurs avis sur des choses qui ne les concernent pas et qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne comprennent pas sur les droits des femmes, sur les corps des femmes, alors notre société continuera d'être patriarcale, injuste, inégalitaire, violente et discriminante envers les femmes. Et puis, j'en parlais il y a quelques minutes en début de cette news, cet édito, les mots ont un sens et au final, on ne se réjouit pas tant que ça de cette constitutionnalisation de l'IVG. Et c'est encore de la faute des vieux sénateurs de droite, puisqu'ils ont modifié le texte initial qui prévoyait, je cite, ouvrez les guillemets, « garantir l'effectivité » et l'égal accès au droit à l'IVG. Eux, les sénateurs, ils ont changé ça en « la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse ». Vous me suivez, je sais que c'est pas forcément simple à comprendre, je vous explique. En fait, on ne parle plus de droit mais de liberté. Ça veut dire que les femmes voulant avorter sont libres de le faire, mais tant pis si elles ne trouvent pas de médecin, de centre, d'endroit pour le faire. Et puis le terme « femme » qu'ils ont voulu, que Macron a approuvé, qu'Aurore Berger a approuvé, n'est pas inclusif, il exclut les hommes trans. À tout moment, le législateur pourra donc restreindre le libre accès à l'IVG en France par le vote d'une simple loi. Et un parlement anti-IVG, on n'en est pas loin, pourrait, enfin, Voilà, on sait ce qui peut nous arriver dans les prochaines années, pourrait rendre l'IVG inaccessible. Donc finalement, ben, la constitutionnalisation de l'IVG en France, ben, c'est, il n'y a pas grand changement avec ce que prévoit déjà la loi Veil. Il me reste trois dates à vous donner, trois dates importantes. Il y a déjà celle qui concerne Emma Baudouin. Emma Baudouin, c'est notre jeune héroïne. Je m'adresse à Louli et Lucie parce que Emma n'est pas là ce soir. Elle organise un ciné citoyen sur le film How to Have Sex de Molly Manning Walker. Jeudi prochain, le 8 février à 20h15 au cinéma Arvor. Le film en fait aborde des sujets des premières fois de la fête, des violences sexistes et sexuelles, VSS, et du consentement. Emma en avait fait une chronique. À l'issue de la projection organisée par Emma Baudouin, comme je suis trop fière de le dire, il y aura un échange avec Margot Gage-Gallet, qui est formatrice au Quatrinette, l'assaut de prévention des VSS en milieu festif, et Lison Hervé, qui est programmatrice et qui rappellera la représentation des fêtes et des VSS au cinéma. Voilà, deuxième date, c'est le Matri Music Party édition 2, deuxième tome. C'est un atelier participatif qui se déroule de 17h à 19h le 9 mars au Jardin Moderne et qui est consacré au matrimoine musical. C'est Émilie Rougier qu'on a reçue ici dans Les Héroïnes pour son documentaire sur le Girl Rock Camp. HF plus Bretagne et la maison de disques Cartel qui sont aux manettes. C'est l'occasion de découvrir l'incroyable travail d'Émilie Rougier. Un travail fastidieux mais tellement nécessaire puisqu'elle a recensé 300 groupes et musiciennes locales. Donc ça a lieu de 17h à 19h dans le club du Jardin Moderne et c'est bien le 9 mars. Alors pourquoi je vous en parle si tôt? C'est parce que la jauge de l'atelier est limitée à 40 personnes. Il faut s'inscrire via un lien et je vous mettrai ce lien sur le blog des Héroïnes sur le site de Canal B. Enfin, le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes et de grève féministe, ben en fait c'est demain et ça se prépare dès aujourd'hui, du moins dès le mardi 13 février à partir de 18h avec la réunion publique organisée par Nous Toutes 35 au Centre culturel Le Triangle à Rennes. Venez nombreuses, et nombreuses pourquoi pas, nombreuses, voilà. Et ben, on va faire une première pause musicale dans Les Héroïnes. On va écouter un groupe qui est canadien, qui vient de Toronto, qui s'appelle Hot Garbage et leur titre c'est Eras My Mind. ça, c'était le groupe qui vient de Toronto, qui s'appelle Hot Garbage, Erase My Mind, dans les héroïnes sur Canal B. Bonjour, bonjour Marine Combes.
Bonjour.
Alors, on a nos deux invités avec lesquels on va parler grossophobie. Et vous vouliez nous rappeler certaines choses sur la grossophobie avant cela, Marine.
Effectivement. Petit tour d'actu avant, hein. À la une, il y a le psychiatre français Gérard Miller, accusé par 3 femmes d'agression sexuelle pendant des séances d'hypnose. Il y a le riche héritier camerounais Hervé Bopda, soupçonné de viol, d'agression sexuelle et de harcèlement par 100 de témoignages d'hommes et de femmes. Il y a l'actrice française Judith Chemla qui dénonce dans la sphère publique les violences qu'elle a subies de la part de 2 ex-compagnons, dont le père de ses enfants. Parenthèse, hein, elle raconte tout ça dans son livre « Notre silence nous a laissés seuls ». Il y a le rapport édifiant de la commission d'enquête parlementaire sur les fédérations sportives françaises établissant des défaillances systémiques, notamment en matière d'éthique et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Il y a déjà 13 féminicides en France et 16 au Kenya depuis le 1er janvier. Elle manifestait justement les Kenyanes. Et il y a plein d'autres actualités terribles qui, tous les jours, occupent la une. Et puis, il y a des actualités qui occupent moins souvent l'espace médiatique, mais qui s'impose tout autant dans le quotidien de nos vies avec lenteur et virulence, la grossophobie. Alors on va en parler tout à l'heure davantage avec le collectif Gros Amour, mais j'avais envie de revenir dessus à un moment très précis de mon existence, la grossesse. Un moment hyper empreint de contradictions au niveau du poids. Alors j'ai toujours plus ou moins intériorisé la grossophobie de ma mère et je l'ai complétée avec celle qui règne dans la société, indiquant qu'en tant que fille et que femme, il fallait garder la ligne, être mince en somme. Alors je ne l'ai pas toujours fait, puis à plusieurs reprises, j'ai eu le droit de la part d'inconnus à la question « Vous êtes enceinte ?» ou directement la réflexion disant que j'étais enceinte et donc on me conseillait tel ou tel aliment, avant de constater l'expression de mon visage, certainement la noirceur de mon regard qui signalait qu'il y avait ici grosse méprise. Puis vient la grossesse, la vraie. Pas la présumée par quelques personnes qui n'ont pas d'autre schéma en tête que surpoids plus joie de vivre égale enceinte. Il y a alors cette pensée qui vient nous apporter beaucoup de réconfort, celle qui vous dit que vous allez pouvoir manger tout ce que vous voulez en dehors d'une énorme liste d'interdictions alimentaires. Exit les restrictions habituelles, là c'est pour la santé du bébé, c'est autorisé. Oui, mais non. Parce que la grossophobie médicale, elle est bien plus large et ancrée que ça. L'influenceuse et mannequin grande taille Marilyn Dunn dénonçait l'an dernier à l'occasion de sa grossesse l'injonction reçue et subie de la part du corps médical de ne surtout pas prendre de poids. Et elle a dénoncé également les préjugés dont sont victimes les personnes grosses, surtout au moment où elles sont enceintes. Elle milite pour normaliser la prise de poids durant la grossesse. On constate donc une réelle différence de traitement, hein, dans le cas où vous n'êtes pas grosse ou pas considérée comme trop en surpoids. Prendre du poids pendant la grossesse, c'est à peu près ok, c'est normal. Mais cette prise de poids d'une femme enceinte, elle est plus ou moins normée. Entre 12 et 20 kilos, on nous dit en général. En dessous, bingo, félicitations. Au-dessus, va falloir se calmer, se reprendre et faire attention. Pour qui, pourquoi, je vous le donne en mille, pour retrouver la ligne après l'accouchement, éternelle obsession de toute la société. T'as plus d'excuses grognasses, retourne te muscler le cul et plus vite que ça. Alors vomir pendant 9 mois, avoir toute la journée la nausée, ça vous fait manger à peu près que des pâtes et du riz. Donc c'est assez fastoche de pas prendre de poids, j'en perdais même au départ. Et c'était quasiment devenu un argument positif de la part des gens qui te disent que bah, du coup, c'est pas si mal que ça, finalement, de vomir tous les jours. C'est fascinant, les réactions qu'on peut avoir. Mais j'avais déjà pu constater dans mon entourage que si une femme enceinte disait qu'elle passait sa journée à manger des biscuits et des bonbons, alors que la meuf, c'est une brindille hyper sportive, elle avait quand même le droit à des regards un peu ahuris et un peu désapprobateurs, des petites remarques lui disant « oui, enfin bon, c'est quand même pas bon pour le corps ». Parce que dans ces cas-là, oui, on murmure. À la fois parce qu'on sait que ça se fait pas ce genre de remarques, et à la fois parce qu'on ne veut pas que ça s'entende de trop imaginer la gêne. La gêne de qui ? Je vous laisse y réfléchir. La grossesse, ça a été pour moi du coup un quotidien de sidération, notamment quand je commençais à redouter la salle d'attente de la sage-femme. Alors ma sage-femme, elle ne faisait pas de réflexion sur mon poids, si ce n'est qu'elle me pesait tous les mois, sans explication de si on fait ça pour une vraie raison médicale ou si c'est un vieux réflexe pour surveiller qu'une femme enceinte se laisse pas trop aller. Ou, donc voilà, pas de réflexion, mais des fauteuils dans la salle d'attente qui nous jugent pour elles. Pourquoi les médecins s'équipent de fauteuils avec des accoudoirs qui sont clairement pas faits pour les personnes grosses ? La volonté d'exclure, aussi inconsciente soit-elle, m'effraie encore plus dans le cabinet d'une sage-femme. Je finissais par avoir peur de me lever et que la chaise reste collée à mes fesses. Et puis vient l'échographie du troisième trimestre au CHU. Le mec me prédit un beau bébé. Alors on pourrait jouer les naïves et se dire que oui, bien entendu, ce sera un beau bébé. On pourrait rougir et lui répondre oh, « Arrêtez de me flatter, docteur, je suis sûre que vous dites ça à toutes les femmes enceintes. » Mais entre nous, on sait parfaitement ce que ça signifie. C'est juste une manière détournée de dire que je vais accoucher d'un gros bébé, selon leurs normes. D'ailleurs, le conseil de l'échographe pour que mon bébé ne soit pas si beau à la naissance, et donc pour éviter d'attiser la jalousie des autres parents, éviter le sucre à partir de maintenant. Moi, en bonne soldate de la grossophobie et de la grossesse bien disciplinée, je sors de là en culpabilisant de m'être autorisée, durant tous ces mois de vomi et de gerbes, les desserts au chocolat. J'ai oscillé les deux derniers mois entre « putain de merde, il me fait chier, il me privera pas de ça » et « oh là là, je vais seulement en manger un sur deux parce que je veux pas créer des problèmes à mon bébé ». Je dois avouer que dans les faits, j'ai continué à manger toutes les crèmes au chocolat. Et puis vient l'accouchement. Et là, on bug avec mon mec quand l'infirmier nous amène sur un chariot muni d'une balance qui affiche le poids du bébé et nous dit « Vous voulez faire une photo là ? Là, on voit bien le poids. » Et il insiste. Il insiste pour qu'on photographie notre nouveau-né et son poids et qu'on l'envoie joyeusement à notre entourage. Pour qu'on photographie la première pesée d'une longue liste de pesées à venir. Je vous rassure tout de suite parce que je sens que ça vous titille de connaître les mensurations. C'était un beau bébé. Pas dans le sens du tout d'une maman objective qui découvre son enfant pour la première fois. C'était pas un beau bébé dans le sens médical du terme. Elle était parfaitement normale. Là, vous l'avez senti, le point de bascule, normal. Vous avez peut-être lutté toute votre vie pour vous dire que vous ne correspondez pas forcément à la norme de beauté dans les critères sociétaux du poids des femmes. Tout votre environnement vous fait vous sentir mal par rapport à ça, mais c'est pas grave. Vous tenez bon, vous essayez de résister. Vous essayez d'opter pour une déconstruction des clichés aussi longue nécessite-t-elle d'être, mais à l'instant où vous mettez au monde votre enfant, vous le souhaitez à tout prix dans la norme. Tous les mois pendant un an, le bébé, il est mesuré, il est pesé sur son carnet de santé et annoté d'une petite croix là où il se situe sur la courbe de croissance et vous attendez cette phrase du médecin, elle est dans la norme. Alors des fois ça peut être nuancé par bon la norme haute, mais la norme quand même, la norme haute, on fait pas bien les choses alors. Je l'ai senti, je le sens régulièrement, ce transfert de grossophobie que j'effectue de moi vers elle. Je me surprends à regarder ses cuisses et me dire elles sont vachement potelées quand même. En fait, c'est le corps d'un bébé qui n'a pas conscience encore de la globalité de son corps, de la singularité de son corps. Et en fait, c'est déjà un corps qui reçoit des jugements et de la violence. C'est un corps qui n'a rien demandé. Et avant même de commencer à vivre hors de mon ventre, c'est un corps qui a été jugé gros, sans que le mot soit dit. Mais je l'ai entendu dans le non-dit et je l'ai vécu frontalement avec honte et culpabilité en intégrant ma propre grossophobie. Donc le chemin, il est long. Pour déconstruire tout ça, et je suis convaincue que chacun et chacune a une remise en cause à faire, une responsabilité aussi, pour qu'on arrête de nous faire porter et de faire porter à notre tour le poids de cette société grossophobe qui étouffe les âmes et les corps.
Merci Marine, et puis il est temps aussi de revoir les courbes, là, les pédiatres, et, parce qu'elles sont,
elles sont
mauvaises.
Elles ne sont pas très actuelles.
Elles ne sont pas actuelles et elles sont mauvaises. Et on reçoit donc aujourd'hui Lucie et Louli, cofondatrices, je le rappelle, du collectif Rennais de lutte contre la grossophobie Gros Amis Amour, dont on a envie de savoir plein de choses. Pourquoi on vous a fait venir aujourd'hui, vendredi 2 février, c'est parce que dimanche il se passe un événement que vous organisez, c'est un vide dressing, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Dimanche, du coup, on organise notre premier vide dressing grande taille qui se déroulera aux Enfants Terribles Café de 14h à 18h et vous pourrez retrouver des tailles allant du 44 au 62.
C'est 30 rues d'Entrain, on le redira tout à l'heure. Alors, ce n'est pas ma première question, mais puisque Lucie, vous parlez des tailles de vêtements, ça c'est une des grosses galères quand on est en surpoids de ne pas trouver le vêtement qu'on souhaiterait parce que les marques ont peut-être fait, pour certaines, un petit effort, mais pas toutes, quoi. C'est compliqué.
Oui, c'est ça. La plupart des grandes tailles, ça va être uniquement sur Internet, avec des prix plus élevés. En magasin, personnellement, moi, je ne trouve pas ma taille. La plupart des magasins, je dirais qu'ils font jusqu'au 44, 46 pour certains, mais ça reste assez rare.
Les magasins qui pourraient aller sur des tailles un peu plus grandes, donc jusqu'au 54, sont au bord de la ville, ne seront jamais dans le centre-ville. Donc, par exemple, Kiabi ou Gémeaux, par exemple, qui vont jusqu'au 54, ben, il y a grande taille,
ouais.
Mais c'est souvent en extrémité derrière la rocade. Quoi.
Faut cacher, quoi.
Ouais,
hein. Mais j'aimerais bien qu'on puisse rappeler ou expliquer ce qu'est la grossophobie. Qui d'entre vous deux se lance.
La grossophobie, c'est une discrimination systémique, donc c'est-à-dire que ça va toucher tous les aspects de la vie d'une personne, donc que ça soit au travail, à l'école, dans la famille, avec les amis, dans la rue, au médecin, ou enfin tous les aspects de la vie, quoi. Et c'est une discrimination qui est sexiste, qui est capitaliste, qui est raciste, enfin voilà, ça touche tous les penchants, quoi. Et du coup, c'est la discrimination envers les personnes grosses. Voilà, ça peut être verbal, ça peut être physique, ça peut être juste on nous invisibilise, quoi.
Alors je rappelle, la grossophobie, elle entre dans le champ de l'article 225-1 du code pénal qui dit constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leurs origines, de leur sexe, de leur situation familiale, de leur grossesse, de leur apparence physique. Et donc elle est punie. 3 ans de prison, 45 000 euros d'amende. Ça, c'est la discrimination qui est hyper dure à faire valoir, parce que pourquoi on m'a refusé ce boulot, pourquoi ce médecin m'a traité de cette façon-là ou a refusé de me recevoir. C'est compliqué, c'est comme pour les personnes en situation de handicap ou c'est compliqué à prouver, mais elle existe, elle est bien là. Et alors, quand est-ce qu'est né Gros Amour? C'est un super beau titre de collectif. Je suis jalouse. Gros Amour.
C'est né, on dit officiellement 2023 maintenant, mais en vérité, c'est né. Il y avait eu une discussion dans un bar à Rennes sur la grossophobie, donc on s'est rencontrés là avec Lucie.
Ouais.
Et moi, j'avais dit que j'avais super envie de faire un collectif à Rennes parce qu'il y avait plusieurs collectifs à Paris, à Toulouse ou à Bruxelles. Et je suis partie 2 mois au Canada et aux États-Unis pour aller rencontrer des militantes contre la grossophobie parce qu'il y a beaucoup plus de collectifs et d'assos là-bas. Et donc, quand je suis revenue, j'ai dit à Lucie, c'est bon, là, on y va. Et du coup, on est apparu au festival Big Up à Villejean et aussi au festival Aux Parleuses. Et c'est là qu'on a rencontré plusieurs personnes. Et je pense qu'au fur et à mesure, on a commencé à être visible. Et depuis là, septembre 2023, on est 8 à peu près. Et
ouais,
on s'organise. Là, on commence à être lancé là.
Ouais, à être bien structuré,
oui, c'est ça,
à mettre
ça
en place des vide dressing. Puis il y a une autre journée en mars, on en parlera autour de Maëlle Bull qui fait des conférences gesticulées. Je suis grosse gourmande et je t'en. Voilà. les discriminations que l'on peut subir, c'est quoi? On parlait que c'est partout, hein, dans la rue, à l'école, chez le médecin, face à un employeur. Concrètement, c'est quoi? C'est au quotidien, c'est tous les jours, et c'est où vous soufflez quand même jamais.
Ça commence par les regards, il y a les paroles, et puis tout nous rappelle qu'on est gros, les accoudoirs sur les sièges,
les coudes de coude dans le métro parce qu'on est assis. Par exemple, tout à l'heure tu parlais du cinéma Arvor. Moi, je sais que je peux encore m'asseoir dans un siège. Arvor, ça commence à être compliqué. Mais je sais qu'il y a des personnes grosses qui peuvent pas aller au cinéma, par exemple. Parce que il y a des accoudoirs. Et le cinéma Arvor, par exemple, hein, désolé, on l'accuse, mais c'est des mini-sièges, quoi. Ils sont tout petits, quoi. Mmh. Et donc, c'est ça, c'est être, on peut plus aller dans certains endroits. Ouais. Toujours réfléchir, est-ce qu'il y aura des accoudoirs ou pas? Au médecin, pareil, on a un rhume, on nous dit, ah bah, faudrait peut-être penser à perdre du poids, madame.
Tout est dû à au poids, quoi.
C'est ça.
Ouais, c'est ça.
Ouais, et puis dans il y a une question moi qui on en a parlé en fait avant l'émission, je me disais c'est l'une des discriminations qu'on prend un peu à la légère, qui est oubliée, qu'on prend un peu à la légère, genre ouais, c'est bon quoi. Et donc dont on ne parle pas voire peu, enfin peu voire pas. Et Louli, vous me disiez qu'en fait c'est aussi parce que les gens dans leur esprit c'est de notre faute. Si on est gros, c'est de notre faute.
Bah parce qu'il y a un truc de tu peux contrôler ton poids, c'est une question de volonté, et que du coup c'est ta faute quoi si t'es grosse, donc on va pas en faire une affaire de société, contrairement à ce qu'on se disait la couleur de peau ou autre discrimination qui pourrait être pas un choix quoi.
Mais les gens voilà ne se rendent pas compte que il peut y avoir des maladies qui font qu'on est gros, il y a l'aspect génétique, enfin il y a plein de choses en fait.
Le métabolisme.
Ouais. Et du coup pour eux c'est un choix qu'on a fait alors que non, je pense que
ouais, et puis On parle des agriculteurs et on commence à montrer un peu du doigt les consommateurs en disant et les distributeurs, la grande distribution, en disant ouais, la malbouffe, etc., qui est pleine de cochonneries et de sucre. Hein, quand Marine parlait des pâtes et des pâtes notamment, c'est plein de sucre. Hein, donc
ouais,
vous avez pas fait attention.
Vaut mieux enlever le chocolat, Marine, visiblement, que les pâtes.
Ouais, mais et aussi ça, c'est une espèce de cercle vicieux. Aussi, on fait rien pour qu'on puisse éventuellement se sentir mieux en mangeant mieux, parce que la grande distribution, bah ouais, c'est pas cher et les autorités font rien quoi.
Et puis, si les personnes grosses, elles peuvent pas s'habiller, pas trouver de travail, pas étudier. Et pas être dans l'espace public, bah en fait elles sont chez elles et du coup on les voit pas, et du coup ça sert à rien de lutter contre quelque chose qu'on voit pas, enfin en tout cas contre une grossophobie, si on voit pas les personnes grosses, on se dit que ça existe pas quoi.
Ouais, mais aujourd'hui il y a les réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux, est-ce qu'Internet a changé les choses, alors que ça soit en mieux ou en pire, dans l'image, dans la représentation dont on a besoin, dont la société a besoin, est-ce que ça a changé les choses? Et puis à côté, bien sûr, les réflexions.
Je pense que c'est quand même une évolution positive. Après, le problème des réseaux sociaux, c'est que ça attise aussi beaucoup de haine. Donc, il y a beaucoup d'influenceuses grosses qui se prennent beaucoup de haine. Je pense notamment à Virginie Rossa, qui fait des vidéos mode, qui partage aussi des bons plans de restaurants, de choses comme ça. Et je trouve aussi qu'il n'y a pas encore beaucoup de très grosses et très gros qui sont représentés. On voit plus de gros, mais ça reste encore...
Oui, c'est ça. Les mannequins curvy, par exemple, elles sont pas non plus extra grosses, quoi. Et puis, voilà, je pense qu'il y a aussi le mouvement body positive qui reste un peu à re-questionner. Et puis, il y a aussi, je sais pas, pendant le confinement, par exemple, toutes les personnes qui étaient en mode « on fait du sport, on a une bonne santé, etc. » Les réseaux sociaux, je pense que c'est positif, mais c'est aussi négatif sur tous les mannequins qu'on voit, tout le truc d'avoir une vie saine et de manger des fruits tous les jours. Enfin, ça dépend des côtés. Mais en tout cas, pour les représentations, je pense que on va pas dire le contraire, que ça nous a... ça nous a pas aidé quoi. Moi je pense que ça m'a aidé à plein de choses quoi.
Alors on parlait quelque part du, enfin c'est une association d'idées que j'ai faite, donc faut que je l'explique quand même. Cette influenceuse qui partage des idées resto, est-ce qu'il y a toujours ces idées reçues? Donc j'imagine qu'elle doit s'en prendre plein la tronche quand elle partage ça. Est-ce qu'il y a encore plein d'idées reçues? Forcément, si on est gros ou grosse, on est drôle. Est-ce qu'il y a toujours, ou alors on doit être une personne drôle, gentille, douce? Est-ce que ça persiste?
Bah oui. Moi j'ai une anecdote en fait. À un moment de ma vie, je pensais faire une chirurgie bariatrique pour perdre du poids, donc un bypass. Et pendant les différents examens, j'ai rencontré du coup cette psychologue qui un jour m'a dit « Aujourd'hui, vous êtes la grosse rigolote, mais quand vous aurez perdu du poids, vous deviendrez une rivale de vos amis. »
Oh, okay. Ah, la violence, dis-tu.
Une psychologue.
Une psychologue professionnelle. Ouais. Hein.
C'est comme les cordonniers. Hein. Ouais. Ah ouais, la violence, quoi. La grosse rigolote.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Mais alors, ça persiste, quoi. C'est toujours là.
Oui.
C'est
ouais.
Quand même, dans cette réflexion, il y a une idée, quand même, sur le fait que si on est grosse, on ne peut pas être attirante, on ne peut pas être désirable, on ne peut pas avoir accès à ça, quoi. Enfin, c'est que la minceur qui apporte ça.
Mince alors. Ouais, c'est le cas de... Ben oui, c'est le cas de le dire. Moi, il y a une question. J'ai une petite idée de la réponse dans ma tête. Enfin, j'ai un biais journalistique. J'aimerais que la réponse soit celle à laquelle je pense. Est-ce qu'il y a une différence entre hommes et femmes dans la grossophobie? Est-ce que les hommes subissent autant que les femmes autant que les hommes?
Non. C'est un grand non.
Alors juste, moi je viens de regarder, on en parlait aussi juste avant, la série De Grâce, je vous la conseille. Une des premières images, c'est Olivier Gourmet dans les vestiaires des docks. Et Olivier Gourmet, je crois qu'il agit là, mais avec son beat, quoi. Moi j'en ai rien à fiche, mais je me suis dit, oh, mais jamais, jamais on verra une femme de son âge comme ça, quoi. Jamais. Donc Louli, c'est confirmé.
C'est confirmé. Et en fait, déjà, si on prend généralement que ça soit grosse ou pas, le corps de la femme doit rentrer dans une norme par rapport au corps des hommes. Et en fait, un homme gros est considéré beaucoup plus... Enfin, il y a beaucoup... C'est plus fort, en fait. Il est considéré comme plus fort, alors que la femme, elle est plus considérée comme... sale ou moins attirante. En fait, les représentations sont pas les mêmes si c'est un corps gros d'homme. Et puis dans les magasins, par exemple, si on prend un XL chez les femmes et un XL chez les hommes, vous allez remarquer que c'est pas du tout le même XL déjà. Donc en fait, déjà rien que dans les vêtements, il y a une différence, alors que c'est censé être la même taille, quoi. Donc oui, il y a beaucoup plus une différence. Et en plus, nous, en tant que femmes grosses, on est fétichisées, quoi. Il y a beaucoup de femmes qui... Enfin, on est utilisées par des personnes qui aiment... Enfin, des hommes qui aiment les femmes grosses, quoi. Moi, il y a plein de fois, à l'époque, quand j'étais de l'autre bord, où il y a des mecs qui m'ont dit « Ah bah oui, en plus, j'ai jamais couché avec une femme grosse. » J'adorerais.
Ah, malade.
Enfin voilà, en fait, on est fétichisé. Les hommes gros, je pense, ça peut arriver. En fait, on minimise pas que le vécu des hommes gros. Il y en a, c'est sûr. Mais la violence est pas pareille. Et là, on a une double discrimination d'être une femme et d'être une femme grosse, quoi.
Ouais. Terrible. Mais c'est des grands malades.
Oh, oui.
Mais oui, on le sait hein, qu'il y a des grands malades. Mesdames, je vous propose de faire une nouvelle pause musicale dans Les Héroïnes sur Canal B. Alors, pourquoi je vous propose ça? Parce que dedans, il y a une fille qui chante, qui s'appelle Mao. Vous connaissez Mao? Non,
non.
D'accord. Sur une radio concurrente, France Inter. Elle est assez incroyable, cette Mao. Elle est humoriste et je l'aime beaucoup. Et elle chante avec Vénus Vénère, État normal. On écoute ça tout de suite.
J'ai pris de mauvaises habitudes, j'habite au sud. Sac à dos, brosse à dents, je dors sous un synthé roulant. Je fais des chansons et j'ouvre des applications pour trouver l'âme sœur, oublier tous ces crève-cœurs. Tout ça c'est confus dans ma tête, je sais pas si ça me fait du bien ou du mal. Envie d'intersidéral, je fais des rencontres un peu tout le temps. C'est comme un job à mi-temps, je rentre en taxi dans la nuit, je me sens vide. Fais-moi du bien, fais-moi du mal.
fait tout empirer. N'oublie jamais la sensation quand t'es à poil sans frisson. Regard qui fuit la situation, pour moi c'est sans façon. Brûleur de javel sur ma peau. Je sais même pas si je peux encore envoyer des textos.
Alors ça, c'était Vénus Vénère sur Canal B dans les héroïnes avec leur titre État normal et l'incroyable, irrésistible, ça se dit encore irrésistible, Mao Drama, humoriste féministe incroyable. Enfin, moi, je l'adore, Mao Drama. Allez voir ce qu'elle fait. Et donc, elle chante sur ce titre et j'ai pas pu faire autrement que de vous le passer. Puis en même temps, je fais bien ce que je veux. Voilà, on est toujours avec Louli et Lucie, qui sont cofondatrices du collectif Rennais de lutte contre la grossophobie. Gros amour. Avant la pause musicale, on parlait différence de discrimination entre les hommes et les femmes dans la grossophobie. Il y aurait un argument supplémentaire. Il y aurait un truc... Non, vous l'avez pas
j'ai
retrouvé.
J'ai oublié, mais je disais que les gens iront se... s'instruire par eux-mêmes.
Ouais, c'est ça, ouais, aussi, parce que... Mais est-ce qu'il y a beaucoup de littérature C'était votre question, Marine ?
Non.
Non, ouais. Alors elle viendra après, c'est ça ? Il y a beaucoup de littérature, de documentation sur la grossophobie ?
Il y en a, il y a des livres, il y a des livres qui... Il n'y en a pas beaucoup, mais ça sort, ça commence à sortir, il y en a beaucoup en anglais aussi. Mais d'ailleurs, nous, avec Gros Amour, on a un Padlet, donc c'est-à-dire une bibliothèque en ligne où on a plein de ressources récoltées au fur et à mesure depuis ces deux dernières années, qui est disponible sur notre Instagram.
Ah bah voilà. Alors on va sur Instagram, Gros Amour et.
Ouais, on a fait un calendrier de l'Avent en décembre avec un conseil anti-grossophobie et dedans il y a le lien.
D'accord.
Du Padlet.
Super. Donc, je pourrais mettre ça aussi sur notre blog et, voilà. et tout ça. Marine, je vous en prie.
Oui, moi, c'était revenir sur certaines contradictions et injonctions paradoxales qu'il peut y avoir aussi. Dans ces cas-là, vous avez fait justement un post sur Facebook où il y a une des phrases, c'est en gros, vous vous moquez de nous si on fait du sport et vous vous moquez de nous quand on fait pas de sport. Enfin, en fait, il y a cette injonction, maigris, mais en même temps, si tu fais ça, si tu commences à faire du sport, tu peux aussi te prendre des remarques. Comment on se positionne dans tout ça quand finalement.
Faut pas être dans l'espace public en fait. Faire le sport en dehors de l'espace public.
Ouais, je pense que les gens aimeraient qu'on soit invisible. Pour le moment, moi, j'ai pas de solution à ça, mais je pense qu'il faut s'écouter et si on le sent de faire du sport dans l'espace public, le faire, et si on préfère être chez soi ou ne pas en faire.
Oui, et puis je pense qu'il y a un truc de moquerie de « Ah bah tiens, elle a de la bonne volonté, ça y est », et puis en même temps, si tu fais pas de sport, t'as pas de volonté, mais une fois que t'en fais, enfin, c'est vrai que les gens, de toute façon, ils sont tout le temps en contradiction, quoi. Et puis, je pense que fais ton sport. Et puis, je pense que on a de la chance quand on est dans les milieux militants ou dans des milieux safe, quoi, entre guillemets, de pouvoir faire du sport. Je pense en non-mixité ou avec des personnes plutôt qui pourraient être bienveillantes. Et voilà. Mais c'est vrai que cette contradiction, c'est vraiment, chiant.
Ouais, parce que, enfin, en fait, on se dit ça vient aussi de toutes parts. Dès qu'une personne grosse, annonce dans son discours public que c'est un choix, qu'elle est bien comme ça. Enfin, on parle du body positive, mais peut aussi y avoir des personnes grosses qui revendiquent. Le fait qu'elles se sentent bien, tout de suite on crie à l'apologie, à l'obésité, en disant mais on oublie complètement le côté médical. En fait, on a l'impression que effectivement il y a pas de solution, enfin il y a pas de bonne posture quoi. Enfin,
si je peux me permettre de rebondir, Marine parlait de grossesse tout à l'heure. Il y a 16 ans, les médecins étaient complètement omnibulés par le diabète. Gestationnelle qui posait des problèmes. J'étais enceinte à ce moment-là avec une amie très très mince. Elle a fait son diabète gestationnel, je n'en ai pas fait. Et en fait, c'est voilà, le sucre, etc. Et la santé, c'est un argument fallacieux complètement, parce qu'il y a des gens qui sont minces, qui mangent des graines et qui font du sport trois fois par jour, meurent à 35 ans d'un cancer. Enfin, c'est absolument fallacieux. Non, mais oui, c'est fallacieux ce truc de la santé. Voilà.
Ouais, et d'ailleurs, moi, par exemple, il y a quelques années, j'étais allée voir mon médecin et je lui ai dit j'ai mal au dos, etc. Et il m'avait dit madame, est-ce que vous avez pensé à perdre du poids? Et j'ai dit, mais vous savez, on me dit ça depuis que j'ai 3 ans, quoi. Et là, vraiment, genre, je me suis énervée et je lui ai dit, mais faites-moi des examens si vous voulez voir, en fait, c'est quoi le problème vraiment. Au lieu de me dire d'aller faire du sport ou des régimes, ça fait vraiment depuis 3 ans que j'ai des régimes et du sport. Et en fait, on a fait une prise de sang et il a vu que j'étais en parfaite santé. Il m'a montré les résultats, il m'a dit, vous êtes en parfaite santé. Votre taux de cholestérol, c'est celui qu'on recherche pour tous les patients du monde, quoi. Et il a dit, vivez, quoi. Et en fait, c'est ça, de faire un lien entre la grosseur et la santé. C'est pas possible. Enfin, en fait, exactement comme tu disais, on peut être gros et être en très bonne santé et être hyper mince et être dans la pire santé possible, quoi. La grosseur n'est pas égale à la mauvaise santé.
Moi, je reviens sur la différence homme-femme. On peut donc considérer que la lutte contre la grossophobie est un enjeu féministe, si les femmes sont quand même en souffrent plus que les hommes.
Oui.
Ouais. Oui, oui, tout à fait.
Convergence des luttes.
Oui, c'est ça.
On est d'accord. Et vous vous sentez bien dans les mouvements féministes. Enfin, vous trouvez que c'est pris en charge cette lutte contre la grossophobie. Alors on se dit, allez-y, parce que on est là pour ça. Mais non, pas trop. Mais
moi, je trouve qu'il n'y a pas encore assez de visibilité pour les personnes grosses, même dans des milieux féministes. Même si c'est amené à évoluer, mais
je pense que c'est comme pour d'autres luttes. Enfin, je pense par exemple l'antiracisme dans les milieux féministes, c'est pareil. Mais je pense que ça peut évoluer. Et justement, j'ai l'impression que c'est aussi une envie que nous on a au collectif de faire du lien. Et ça va être amené à évoluer, j'imagine. Et j'espère. Et on est là pour ça, j'ai l'impression aussi, quoi.
Bah oui, c'est vrai que on dit que les afroféministes se sont détachées des féministes blanches parce qu'elles, dans les années 60, dès les années 60, je regarde Marine Combe parce que pour qu'elle me rassure
pour
sur ce que je ouais,
que
tu confirmais, Marine.
Oui, bah, les militantes racisées, lesbiennes, etc., ont toujours été dans tous les combats féministes, et à chaque fois, tout ce qu'on a retenu de l'histoire des luttes, c'est des femmes blanches qui se battent pour leurs droits plutôt bourgeois, quoi. On exclut toujours, alors que finalement il y a toujours eu c'est toutes les militantes qui se sont alliées.
Donc en tout cas, chez Gros Amour, c'est une volonté. J'aimerais bien qu'on revienne sur ce qui se passe là, dans les jours à venir. Alors dimanche, on l'a dit, vide dressing, les tailles, c'est du 44 au, Lucie l'a dit,
62.
Ouais. C'est dimanche 4 février à Rennes, 14h-18h. Les Enfants Terribles Café, c'est 30 rue d'Entrain. Donc on vient, on paye ce qu'on trouve, on boit un petit café, ça se passe comme ça ?
C'est ça, tout à fait, ouais, vous venez, vous regardez les pièces, vous pouvez essayer, il y aura une cabine d'essayage. Vous pouvez aussi venir juste pour discuter avec nous en tant qu'allié de la cause. Il y aura aussi Laura Coupeau qui nous a fait des jolies broches sur la grossophobie. Et on vend également des accessoires pour toucher un petit peu plus de personnes et non pas seulement les personnes concernées.
Et en mars, il y a une journée qui est organisée en matinée au CRIDEV dans le cadre du mois international de lutte pour les droits des femmes, contre le sexisme, la grossophobie, le racisme, enfin voilà, en tout cas contre le sexisme à Rennes. Et on peut avoir quelques mots sur cette journée, cette demi-journée au CRIDEV.
Du coup, c'est dans le cadre de la semaine, mois de lutte internationale pour les droits des femmes. Et c'est avec la ville de Rennes, mais c'est au CRIDEV. Et c'est Maëlle Bull qui a une conférence gesticulée sur la grossophobie qui sera en représentation le matin et l'après-midi avec Gros Amour et le CRIDEV et Maëlle. On propose un atelier de sensibilisation à la grossophobie, donc ça dure 3 heures, c'est de 13h à 17h. Donc c'est de sensibilisation, c'est pour ça que j'insiste, parce que c'est court et que ça nécessite beaucoup plus d'heures de sensibilisation pour être un peu au taquet sur ça, mais en tout cas c'est sur inscription aussi, donc la com sort bientôt.
Et on n'hésitera pas à communiquer nous aussi sur la com de Gros Amour de cette journée avec Maëlle Bull. Vous avez les dates des spectacles de Maëlle Bull, Marie?
Ouais, j'ai quelques dates. Il y a le 18 février à 15h chez l'Habitante à Rennes, donc là faut rester au taquet sur son Facebook. Donc le 6 mars effectivement au CRIDEV, j'avais noté le 25 mars au lycée agricole du Reux, le 3 avril au Jeu de Paume et le 4 avril à l'Antipode. Est-ce qu'on a le temps de dire deux mots sur cette conférence gesticulée?
Eh bien, je vais essayer de ce qu'on a vu. C'est une conférence gesticulée sur la grossophobie. Elle raconte en fait son parcours en tant que enfant, puis ado, puis femme grosse, si je me trompe pas. Et elle fait aussi le lien avec le sexisme et à peu près tous les penchants de la grossophobie. Voilà, je sais pas si tu veux rajouter.
Non, c'est bien, c'est ce que j'aurais dit aussi.
Et c'est super chouette, il faut y aller, c'est trop bien.
Ouais, moi je l'ai pas vu. Vraiment. Marine, vous l'avez vu?
Non, mais pareil, j'ai que
c'est vraiment bonne entrée en matière sur le sujet. Et puis c'est drôle et c'est touchant et vraiment c'est trop trop bien.
Donc je mettrai sur le blog des héroïnes sur le site de Canal B, l'Instagram de Gros Amour et quelques infos aussi pour retrouver Maëlle Bull. Merci beaucoup Louli, Lucie, Marine.
Merci.
Combe. On était ravis de vous rencontrer, de vous accueillir sur le plateau des héroïnes qui se termine en musique avec Albin de la Simone, Une femme. On se retrouve bientôt. Portez-vous bien. Dimanche, vous serez 30 rues d'Entrain, n'oubliez pas, pour aller voir Gros Amour et son vide dressing. Salut, à bientôt.
Une femme dans chaque port, la même, me suivra-t-elle encore? Une femme quand je m'endors, la mienne, au lit jusqu'à l'aurore. Une femme qui embellit ma vie et qui la sale aussi. Une femme qui tient la